Nous allons commencer demain un temps de jeûne et prière, une chaîne de 40 jours de jeûne et prière. Et comme je vous l'ai annoncé, le thème majeur de beaucoup des études que nous partagerons, des prédications, sera la prière. Parce que nous sommes toujours comme les disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous n'avons pas fini de comprendre, de sonder quelle est la puissance, l'efficacité de la prière. Et quand nous lisons dans les Écritures comment Jésus priait, comment les prophètes priaient, nous aspirons toujours à progresser. Ce matin, je vous invite à aller avec moi dans la première épître de Jean, au chapitre 5, versets 14 et 15. Et le titre de ce message sera « Prier selon l'agenda de Dieu ». Et en vous parlant de cela, je veux vous ramener à ce que Jean nous dit, prier avec assurance. Voulez-vous prier avec assurance? Vous savez, cette assurance qui est en nous et qui nous permet de croire que lorsque nous prions, nous sommes écoutés de Dieu et bien plus, nous sommes exaucés par Dieu. Voilà le genre de prière que nous voulons développer. Et pour cela, il faut donc apprendre à prier selon l'agenda de Dieu. Et nous lisons dans cette première épître de Jean, chapitre 5, verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et nous savons que s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, qu'elle soit. Amen. » Permettez-moi de commencer par cette évidence. Être dans la bonne direction est toujours plus important que d'aller vite. Parce que quelle que soit l'énergie dépensée et la vitesse atteinte, si vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous n'atteindrez pas le but, n'est-ce pas? Eh bien, pour la prière, c'est pareil. La prière, premièrement, doit servir à discerner et à avancer dans la bonne direction plutôt qu'à produire une certaine vitesse d'exécution. Or, il arrive que trop souvent, nous agissions à l'opposé. Au lieu de chercher une direction, nous présentons à Dieu une certaine direction et nous demandons au Seigneur de nous exaucer rapidement. Au point même, des fois, de vouloir lui arracher une réponse. Mais encore une fois, la vitesse est moins importante que la direction. Prier dans la bonne direction est fondamental. C'est nous tenir dans le bon chemin, c'est être dans l'agenda de Dieu. Et prier selon l'agenda de Dieu est essentiel pour qui veut avoir de l'assurance quand il prie. Pour qui veut être efficace quand il prie. Prier selon l'agenda de Dieu, c'est devenir partenaire de Dieu dans la prière. Mais exactement, c'est quoi donc cet agenda de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, prier selon l'agenda de Dieu, c'est nous accorder avec Dieu. Et nous accorder avec lui sur deux choses. Comprendre que tout d'abord, Dieu a une direction et un timing pour chacune de nos prières. L'agenda de Dieu est là. La direction que Dieu veut donner à nos prières, le timing qu'il a choisi pour l'exaucement de nos prières, ça s'appelle prier selon la volonté de Dieu. Pour chacune de nos prières, pour chacune de nos requêtes, de nos supplications, de nos intercessions, Dieu a une volonté, Dieu a une direction et Dieu a aussi un timing. La question est de savoir si nous prenons le temps de nous accorder avec Dieu. Prenons-nous le temps de le consulter? Ou alors venons-nous vers Dieu avec nos propres projets, nos propres vies, nos propres requêtes et nous lui demandons « Seigneur, accorde-toi à nous ». Vous savez aussi que nous pouvons intercéder, prier d'une certaine manière, mais est-ce véritablement la manière que Dieu attend? Il y a différentes manières de prier. Oui, oui, nous pouvons jeûner, nous pouvons proclamer, nous pouvons ordonner, nous pouvons lier, nous pouvons combattre, tant et tant de manières de prier. Mais au fait, Seigneur, quelle est la manière de prier en ce moment? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et des gens se précipitent à lier à tout vent, à tout va, ou alors se lancent dans des jeûnes, ou alors font toutes sortes de déclarations. Mais ont-ils pris le temps de considérer quelle était la volonté du Seigneur ? Quelle forme de prière Dieu voulait que nous pratiquions ? Pour emporter de réelles et efficaces victoires dans la prière, nous devons nous accorder avec Dieu et connaître son agenda, c'est-à-dire connaître sa direction et connaître le temps. Alors nous développerons une prière efficace parce que nous agirons selon ce qu'il nous indique. Comprenez-le, la prière efficace ne vient pas du fait que nous multiplions les paroles, ne vient pas du nombre de décibels que nous prononçons, ne vient même pas de ce que nous dirions 1000 fois au nom de Jésus. La prière efficace, elle naît de l'écoute de Dieu. L'intercesseur véritable, je crois, passe même moins de temps à parler qu'à écouter. Il écoute. Et parce qu'il a écouté, il peut parler. Voilà le partenaire de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, il me faut m'arrêter sur un point un peu délicat. Et considérer qu'il peut nous arriver de prier sans nous accorder avec Dieu, voire même de prier en désaccord avec Dieu. Et ce sont de mauvaises prières. Et voyez-vous, de mauvaises prières peuvent recevoir de mauvaises réponses de la part de Dieu. De mauvaises réponses parce que pas bonne pour nos vies. Comment ça, Dieu peut nous accorder de mauvaises réponses ? Oui, parce que Dieu honore la liberté qu'il nous donne. Nous pouvons formuler de mauvaises prières et recevoir de mauvaises réponses parce que nous n'avons pas pris le temps de nous accorder avec Dieu. Attention, rassurez-vous, je ne dis pas que systématiquement Dieu va répondre à nos mauvaises prières, heureusement. Mais maintenant, si la Bible n'enseignait pas qu'il convienne que nous recherchions quelle est la volonté du Seigneur, pourquoi serait-il alors important de nous accorder avec lui ? Si nous ne prenons pas le temps de chercher la volonté de Dieu, nous pouvons prononcer des mauvaises prières. Et elles ne seront pas toutes forcément ignorées, elles ne seront pas toutes forcément repoussées. Mais il y a certaines de nos mauvaises prières, parce qu'elles ne sont pas accordées avec Dieu, voire en désaccord avec lui, qui seront exaucées par Dieu. Et alors, il nous faudra en supporter les conséquences. Ce que je vous dis peut vous étonner, vous surprendre, vous déstabiliser peut-être, voire vous choquer. Il me faut alors appuyer mon raisonnement par des exemples bibliques concrets. Je vais prendre celui du roi Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 20, nous découvrons que le prophète Ésaïe est envoyé par le Seigneur auprès d'Ézéchias pour lui dire de mettre les affaires de sa maison en ordre parce que bientôt il va mourir. Alors bien sûr, nous le comprenons, Ézéchias est saisi par un instinct de survie. Et au lieu d'écouter la parole d'Ésaïe, que va-t-il faire ? La Bible nous dit qu'il va se tourner vers le mur et il va commencer à prier. Plaider son cas devant Dieu, rappeler à Dieu toutes les bonnes œuvres qu'il a accomplies pour lui, comme si nous étions exaucés à cause de ce que nous aurions fait. Et puis il va pleurer, pleurer abondamment. Et alors que le prophète Ésaïe est encore dans la cour du palais royal, voilà que le Seigneur le renvoie auprès d'Ézéchias. Avec cette parole, Dieu t'a entendu, Dieu t'exauce, Dieu rallonge ta vie de 15 années supplémentaires. Et Dieu a donc ajouté à la vie d'Ézéchias. Maintenant, la fin du chapitre 20 de 2 Rois va nous rapporter les événements qui vont s'accomplir pendant ces 15 années de vie complémentaires. Et le chapitre 21 va nous rapporter ce qu'il advint ensuite et qui est directement lié à ces 15 années de vie supplémentaires. Que voyons-nous dans le chapitre 20 ? Nous voyons un homme, Ézéchias, dont le caractère a changé radicalement. Ézéchias devient un homme arrogant, devient un homme centré sur lui-même. Et voilà que des émissaires du roi de Babylone vinrent le saluer. Et flatté de cette visite importante, diplomatique, voilà que Ézéchias va leur ouvrir les palais, les portes du palais, leur montrant les trésors accumulés, leur montrant les armées constituées, leur montrant toutes les constructions réalisées, mais oubliant de leur parler du temple du Seigneur. Pourtant, ces hommes étaient venus au sujet du grand exploit qui s'était manifesté. Mais l'exploit n'était pas dans les trésors ou dans les armées. L'exploit s'était produit dans le temple lorsque, quelques années plus tôt, cerné par les armées assyriennes, Ézéchias était venu dans le temple brandissant une lettre dans laquelle le roi d'Assyrie se moquait ouvertement de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il avait plaidé la cause du peuple. Et Dieu avait délivré Israël de la menace des armées d'invasion. Mais de ça, Ézéchias n'en avait pas parlé. Et le Seigneur a vu cela. La Bible nous dit même que Dieu a éprouvé son cœur à cet instant-là. Alors Dieu a envoyé Ésaïe une nouvelle fois vers Ézéchias avec un message. « Ézéchias, tout ce que tu as montré, tes richesses, tes armées, tes constructions, tout cela sera pris par ces hommes de Babylone. Mais ça ne se fera pas du temps de ton vivant, mais de tes descendants. » Savez-vous quelle fut la réponse d'Ézéchias ? « Oh, en quelque sorte, ça ne me concerne pas. » Après, ils géreront les choses. Voilà quel fut l'état d'esprit des 15 années de vie complémentaire que Dieu a accordé à Ézéchias. Nous sommes loin de ce roi qui était passionné pour Dieu. Mais nous avons là un homme qui est centré sur lui-même. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Et il nous faut aller au chapitre 21. Et là, nous lisons ceci. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Qui est Manassé ? C'est le fils d'Ézéchias. Et vous comprenez ceci, c'est que si Manassé devint roi à 12 ans, c'est donc qu'il est né pendant la période des 15 ans de vie complémentaire. Manassé a régné 55 ans, son fils Amon a régné 2 ans. Et la Bible nous montre que ces deux rois, Manassé et Amon, ont été les pires, les plus idolâtres, les plus injustes. Ils sont ceux qui ont versé le plus le sang des prophètes parmi tous les rois d'Israël. Et à cause d'eux, le temps de la chute de Juda a été accéléré. Et c'est ainsi que nous lisons dans 2 Rois, chapitre 24, verset 3, c'est uniquement sur l'ordre du Seigneur que tout cela arriva à Juda, c'est-à-dire la destruction de Juda, pour qu'il fût écarté loin de sa présence. C'est à cause des péchés de Manassé, de tout ce qu'il avait fait. Ézéchias a fait une prière à Dieu. Mais je vous pose la question, était-ce véritablement une bonne prière, une prière en accord avec Dieu ? Je crains qu'il nous faille considérer que la prière d'Ézéchias était une prière qui venait du cœur d'Ézéchias, que ce n'était pas une prière en accord avec Dieu, que ce fut donc une mauvaise prière et une prière qui a enclenché un cycle de conséquences négatives pour Israël. La prière d'Ézéchias a précipité la chute de Juda. Dieu écouta Ézéchias. Mais les choses auraient certainement été mieux pour Ézéchias lui-même et pour Juda aussi s'il avait accepté de se soumettre au plan de Dieu et de mettre ses affaires en ordre. Attention donc aux prières qui viennent du cœur de l'homme et non du cœur de Dieu. Dieu acceptera d'écouter nos prières si nous les présentons instamment dans le nom de Jésus. Mais peut-être essaiera-t-il par un moyen ou un autre, des obstacles, des paroles inspirées, du conseil, de nous amener à réfléchir à notre demande. Maintenant, si nous persistons, Dieu peut répondre et nous recevons la réponse que nous voulons. Mais Dieu n'ira pas plus loin, s'arrêtera là. Parce que la réponse qu'il nous donne est celle que nous attendions. Mais il sait qu'elle n'est pas bonne pour nous. Parce que cette réponse ne lui apporte aucune gloire. Ce sont les intérêts de l'homme qui sont en jeu. Mais il nous laissera aussi face à notre propre choix. Parlons franchement. Mes frères et sœurs, il ne s'agit pas de mettre un jugement sur quelqu'un, mais simplement de réfléchir à cela. Combien de chrétiens occupent des métiers qu'ils ne devraient pas ? Suivent des études qu'ils ne devraient pas. Plus délicats, et pourtant bien réels, sont mariés avec des personnes avec qui ils ne devraient pas. parfois occupent des maisons qu'ils ne devraient pas et qui les détournent des plans de Dieu pour leur vie. Alors ils diront, c'est la réponse de Dieu à mes prières. Mes prières. Mais sont-elles véritablement les prières de Dieu ou les prières de l'homme? Et nous comprenons qu'être exaucé ne veut pas dire que nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais ça nous montre simplement que la prière est un instrument puissant. Me direz-vous alors, mais Dieu serait si faible que nous pourrions le forcer à agir contre sa propre volonté? Certainement pas. Dieu est puissant et jamais nous ne l'impressionnerons. Mais Dieu respecte notre liberté. Mais il nous dit aussi, attention, vous êtes administrateur, gérant de votre liberté. D'accord, tu veux aller dans ce sens, vas-y. Mais être gérant, ça veut dire qu'au bout du compte, nous rendrons compte de notre administration. Le Seigneur n'arrêtera donc pas forcément nos mauvaises prières. Et même si nous sommes dans la mauvaise direction et si nous sommes résolus à y aller, il nous laissera y aller. Un exemple, Balaam. Vous connaissez le prophète. Dieu a tenté de l'arrêter de différentes manières, jusque même à utiliser une ânesse. Mais Balaam a persisté. Balaam a poursuivi son chemin. Oh, il a eu peut-être les honneurs des hommes, mais il a fini sous l'épée de Josué. Dieu avait averti Balaam, Balaam a persévéré. Finalement, je dirais que Dieu n'arrête pas nos mauvaises prières parce qu'il est faible, mais au contraire parce qu'il est le maître formateur. Et du sein même de nos égarements, il en tirera quelques leçons pour nous. Il nous laissera affronter certes la situation, il nous laissera peut-être gérer les conséquences, mais il sera toujours là pour nous ramener dans son plan, qui malgré tout sera affecté par nos décisions. Un exemple, Sarah un jour dit à son mari Abraham, « Oh Abraham, peut-être que si nous passions par Agar, nous aurions un enfant. L'enfant est venu, il s'appelle Ismaël. » Bien sûr, Dieu a ramené Abraham et Sarah dans son plan. Isaac est né, oui, mais il a fallu gérer Ismaël et Agar. Et Israël continue toujours de devoir gérer Ismaël. Alors, après avoir vu ce point un peu négatif, disons, pour nous avertir, parlons maintenant d'être partenaire avec Dieu dans la prière. Dieu cherche des hommes, des femmes qui ne seront donc pas affairés à leur propre agenda, mais qui vont devenir des agents puissants pour l'accomplissement de son agenda à lui. Et je voudrais prendre deux exemples ce matin, tirés encore de l'Ancien Testament, et parler de David et Élie, deux hommes de prière, qui vont nous instruire quant au fait de s'aligner sur l'agenda de Dieu. David quant à la direction de Dieu, Élie quant au temps du Seigneur. David est un homme qui a su chercher la direction de Dieu. Alors qu'il vient d'être couronné roi, qu'il a à sa disposition toutes les armées d'Israël, qu'il est un expert en combat, un héros admiré par tous, quand les armées des Philistins montent en Israël, il ne va pas sonner le clairon, rassembler ses régiments et partir au combat. Mais tout d'abord, nous dit 2 Samuel 5, 17 à 25, il va prendre le temps de consulter Dieu. Et il lui pose la question, « Monterai-je contre les Philistins ?» Et Dieu va lui dire, « Oui, monte, et je les livrerai entre tes mains. » Et David est monté. Il a mené le combat, ils ont remporté la victoire. Puis, quelque temps plus tard, voilà que les Philistins, revanchards, reviennent une nouvelle fois. Et David aurait pu se dire, ça y est, je connais le chemin, allons-y, comme la première fois, rassemblons les armées et nous allons monter. David a-t-il fait cela? Non. Il nous est dit un peu plus loin que David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas, mais tu les contourneras. Et quand tu entendras du bruit de pas au-dessus des mûriers, alors tu iras combattre. Voyez-vous, David n'a jamais cherché à agir par lui-même, pourtant il avait la force, la puissance, l'expérience. Et même, il savait comment Dieu lui avait permis de remporter une première bataille. Mais à la deuxième bataille, il a pris le temps quand même de revenir vers le Seigneur. Hé, Seigneur, c'est vrai que la première fois, tu m'as dit de monter. Mais ce coup-ci, que me dis-tu? Et ça, c'est admirable. Jamais David n'a cherché à s'appuyer sur sa force, sur son expérience, mais toujours sur le conseil du Seigneur. Et parfois, c'est un peu déstabilisant. Mais la première fois, Seigneur, tu m'avais dit de monter. C'était très bien comme ça. Et maintenant, tu me dis de contourner. Mais pourquoi? Et si Dieu le veut? Ah, nous croyons que parce que Dieu nous a parlé une fois comme cela et que nous avons remporté la victoire comme cela, eh bien, maintenant, je connais le chemin. Allons-y. Oh, nous avons fait comme cela, nos pères ont fait comme cela, c'est sûr, ça doit, c'est le chemin, c'est la façon de faire. Et vous savez que dans nos églises, nous avons du mal, ou même dans nos vies personnelles, à aller retrouver le Seigneur pour savoir, et maintenant, Seigneur, quelle est la direction? Hein, on va monter comme autrefois. Non, 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 vous n'allez pas monter, vous allez faire le tour. Ah bon? Mais on n'a pas fait comme ça avant. Oui, mais maintenant, tu vas faire le tour. David a pris le temps de consulter le Seigneur. Et Dieu lui a accordé une grande délivrance. Gloire à notre roi. Oui, ce que nous apprend David, c'est que Dieu peut changer de direction. Et ce n'est pas à lui à s'adapter. C'est à nous de nous adapter à Dieu. Parlons d'Élie, nous allons parler maintenant de quelqu'un qui a su s'accorder au temps de Dieu. David s'est accordé à la direction de Dieu, Élie s'accorde au temps de Dieu. Alors l'apôtre Jacques nous dit qu'Élie était un homme de la même nature. Nous disons « Amen, Seigneur, nous le croyons puisque ta parole le dit », mais nous disons « Élie, c'est quand même quelqu'un, hein ?» Mais ce qui est remarquable dans la vie d'Élie, c'est qu'il fut un partenaire unique pour le Seigneur. Un partenaire de Dieu toute sa vie. Et lorsque nous rencontrons Élie pour la première fois au chapitre 17 du premier livre des rois, nous voyons donc cet homme, vous savez, Élie le Tishbite, il sort d'on ne sait pas où. Il apparaît comme ça. Et tout de suite, il se présente devant le roi idolâtre Akab et il lui dit cette parole terrible, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quelle parole? C'est la première parole d'Élie. Et puis au chapitre 18, voilà que les choses vont changer. Un chapitre plus loin, nous lisons que bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Dans la troisième année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Alors, chapitre 17, pas de pluie. Chapitre 18, de la pluie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux exactement? Et nous croyons que, au chapitre 17, dans le temps du chapitre 17, Élie a fait la volonté de Dieu. Et puis au chapitre 18, Dieu a changé de volonté. Comment ça, Dieu change de volonté? Oui, Dieu a changé de volonté. Et au chapitre 18, ce n'était plus le temps qu'il ne tombe plus de pluie, mais c'était le temps que maintenant la pluie tombe. Et Élie n'a pas dit, mais Seigneur, au chapitre 17, tu m'as dit qu'il ne devait plus pleuvoir, alors c'est ta volonté, il faut continuer. Mais il a su s'adapter au temps de Dieu. Quelqu'un a écrit, et c'est une phrase qui peut nous amener loin dans la réflexion. Savez-vous que l'on peut faire la volonté de Dieu trop longtemps? Tellement longtemps qu'on ne s'est pas rendu compte que Dieu a changé de volonté. Alors au début, on est bien dans la volonté de Dieu, mais on veut tellement persévérer à faire la volonté de Dieu qu'on ne s'est pas rendu compte que Dieu avait changé de volonté. Et on est étonné, mais comment ça se fait? Autrefois, j'étais dans la bénédiction de Dieu, et aujourd'hui, que se passe-t-il? Plus rien! Comment ça, Dieu peut changer de volonté? Écoutez, il le peut tout à fait. Et Élie nous montre un homme de prière qui a su s'accorder au temps de Dieu. C'est important pour nous. Je vous le disais, c'est déstabilisant de devenir un partenaire de Dieu dans la prière. Parce que nous aimons les choses bien balisées, bien organisées, et alors que Dieu, ben oui, l'esprit, tu ne sais pas d'où il vient, tu en entends le souffle, le bruit, tu ne sais pas où il va. Nous, on aimerait bien qu'il soit dans une boîte. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait, c'est comme ça qu'on... Peu importe le temps qui passe, et Dieu nous dit non. Il y a ma volonté, il y a ma direction, il y a mon temps. C'est pas à moi de m'adapter, nous dit le Seigneur, mais c'est à nous. Prier selon la volonté de Dieu, chercher donc sa direction et son temps est quelque chose qui peut nous désarçonner si nous n'y prenons pas garde. Et il nous faut donc toujours être capable de nous poser cette question: qu'est-ce que Dieu veut ici, maintenant, me concernant ou concernant telle ou telle situation? Alors oui, je le dis, je ne suis pas en train de parler de ceux qui découvrent la prière. Là, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs, qui avez envie de dire au Seigneur: enseigne-moi à prier, à aller plus loin. Eh bien, pour aller plus loin dans la prière, écoutez davantage le Seigneur et parlez-moi. Et il nous faut donc apprendre à laisser Dieu prendre contrôle de notre agenda de prière. Avant de foncer dans la prière, Seigneur, j'ai mon canevas de prière, j'ai mes notes, j'ai tout, on listing. Prenez donc un temps pour dire: Seigneur, parle-moi, inspire-moi, conduis-moi. Quel est ton agenda de prière à toi pour aujourd'hui? Vous verrez que Dieu saura vous conduire, mes matins, frères, des besoins qui sont là, mais vous prierez d'une autre manière, avec le souffle puissant du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que la prière efficace, la prière avec assurance, vient du cœur de Dieu et non pas de l'homme. La prière que Dieu désire entendre et exaucer est une prière qu'il connaît déjà, parce qu'elle vient de lui. C'est une prière qui est née dans son cœur et qu'il implante dans notre cœur par le Saint-Esprit. La véritable prière ne consiste pas à faire nos prières, mais à prier ce que Dieu veut que nous prions. Ça, c'est la prière avec assurance. Alors bien sûr, prier selon l'agenda de Dieu n'est pas une chose simple et ça demande un apprentissage de l'écoute. De l'écoute de Dieu: Seigneur, circoncis mon oreille. Seigneur, à tes murmures, à tes intuitions, apprends-moi à être attentif. Mais dans tous les cas, il nous faudra toujours apprendre à dire: Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, de tout mon cœur, je veux prier dans ce sens, mais tu vois, je peux peut-être me tromper. Alors, non pas ma volonté, mais la tienne. Et si nous sommes dans cet état d'esprit de cœur, Dieu nous fera grâce quant à nos mauvaises prières. Et il les repoussera, les ignorera. Et il saura nous conduire vers son agenda à lui. Alléluia.